La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne. Vous connaissez le principe. Vous commentez l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Et ce matin, comme tous les vendredis d'ailleurs, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Vous le verrez dans une demi-heure. D'ici là, continuez évidemment à nous contacter. On fera le maximum pour donner la parole au plus grand nombre d'entre vous. 33 9 693 693 60. Vous envoyez vos commentaires sur la page Facebook de l'émission et vous nous envoyez également vos réactions sur le compte WhatsApp de l'émission 33 6 89 28 53 64. Notez bien ce numéro. Si nous ne sommes pas si réactifs que cela, ne soyez pas surpris, nous avons reçu, rien que durant le mois de janvier, quelques 17 000 messages sur le compte WhatsApp. Donc voilà, on fait au mieux pour vous répondre évidemment à chaque fois. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Des questions sur l'arrestation lundi du principal opposant camerounais, Maurice Komto. Bonjour Hamid. Allô Hamid.
Bonjour Yohan. Bonjour Alex. Oui Yohan, bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Douala au Cameroun.
Oui Yohan.
Eh bien, on vous écoute.
Oui, le professeur Maurice Komto, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle au Cameroun, a organisé des manifestations non autorisées pour contester la réélection du président Paul Biya, qui est à la tête de l'État depuis 36 ans. Et suite à ces manifestations, le gouvernement n'a pas apprécié l'attitude du MLC, le parti qui dirige Maurice Komto. Oui. Le ministre de l'administration territoriale, pour la Tangandi, dans une sortie médiatique, a dit que le MRC a franchi la ligne rouge et que la loi sera appliquée. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là?
Qu'est-ce qu'il entend par ligne rouge? Effectivement, bonne question. Bonjour Anne Cantoner.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. Alors effectivement, dans un premier temps, les autorités, par la voix du ministre de l'administration territoriale, parlaient d'une ligne rouge qui avait été franchie le week-end dernier, sans plus de détails. Mais depuis, on en sait un peu plus sur ce qui est reproché à Maurice Komto.
Oui, depuis, le gouvernement s'est exprimé de nouveau. D'abord, il y a eu un communiqué du ministre de la Communication mardi, qui faisait en quelque sorte la liste des reproches imputés au MRC. Il y a deux aspects. D'abord, les manifestations dont parlait Hamid. C'est ce que Maurice Komto appelle les marches de la résistance contre ce qu'il qualifie de hold-up électoral. Donc lui conteste toujours les résultats de la présidentielle.
Des marches qu'il présente comme étant des marches pacifiques.
Oui, des marches pacifiques qui n'avaient pas été autorisées par les autorités quand même. Il y avait quelques centaines de personnes à Douala, des marches dans plusieurs autres villes du pays. À Douala, la répression a été sévère, il y a eu quand même plusieurs blessés. Donc ça, c'est le premier aspect, les manifestations auxquelles appelle Maurice Komto. Et puis, de l'autre côté, les autorités parlent des dégradations qui ont été commises dans les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. C'était samedi dernier également. Quelques dizaines de personnes ici à Paris avaient investi les lieux pendant quelques heures, dégradé les lieux, et elles demandaient le départ du président Paul Biya. Donc, mardi, dans le communiqué, le gouvernement laissait déjà un peu présager des infractions qui seraient imputées aux personnes arrêtées. Le ministre de la Communication parlait de destruction de symboles de l'État à Paris et à Berlin et de démarches insurrectionnelles pour qualifier donc les appels à manifester lancés par Maurice Komto. Tout ça, ça a été confirmé ce matin sur notre antenne. Le ministre de la Communication, qui était notre invité, parle d'incitation au désordre, de révolte et puis de nouveau d'insurrection.
Ouais. Maurice Komto poursuivit donc pour trouble à l'ordre public, rébellion en groupe, hostilité contre la patrie et insurrection. Un mot tout de même, puisqu'on parle du principal opposant, mais il y a eu plus d'une centaine de personnes interpellées. Et là, il y a contradiction également sur les chiffres entre ceux communiqués, notamment ce matin sur notre antenne par le ministre de la Communication, et ceux fournis par le parti de Maurice Komto.
Oui, alors il y a eu deux vagues d'arrestations. La première samedi lors des manifestations et la seconde lundi soir. Donc plusieurs dizaines de personnes avaient été arrêtées en même temps que Maurice Komto. Le chiffre aujourd'hui avancé par le ministre ministre de la Communication, c'est 147 personnes qui seraient détenues. Les avocats du MRC et de Maurice Kamto, eux, parlent de 215 personnes qui seraient détenues en ce moment dans différents lieux à Yaoundé.
Ouais, la ligne avec Hamid à Douala vient de se couper, mais je me fais son porte-parole pour la deuxième question. Il nous dit quelles sont les sanctions que peut encourir Maurice Kamto et les autres cadres du parti arrêtés.
Maurice Kamto risque gros, hein, puisque les charges qui pèsent contre lui sont lourdes, vous les avez rappelées. Alors, selon l'un de ses avocats, la plus grave, c'est l'hostilité à la patrie. Là, la sanction peut aller jusqu'à la peine de mort. Les autres charges, elles, sont passibles de plusieurs années de prison. L'insurrection, l'infraction d'insurrection, il existe une peine planchée de 10 ans et la peine peut aller jusqu'à 20 ans de détention. La rébellion est sanctionnée de 1 à 5 ans de prison et la participation à une manifestation illégale de 2 à 5 mois. Donc, ces charges pèsent aussi sur les autres personnes arrêtées dont on parlait. Donc, 215 personnes, d'après les avocats de Maurice Kamto et du MRC.
Maurice Kamto, qui n'a toujours pas été officiellement inculpé.
Non, et c'est important de le préciser, parce que là, pour répondre à la question d'Amine qui se demandait ce que risquaient les personnes qui ont été arrêtées, voilà la liste de ce qu'ils risquent. Mais pour l'instant, on en est encore au stade de l'enquête préliminaire. Les auditions de cette semaine s'étaient effectuées par la police. Donc, on attend de savoir si les personnes interrogées seront renvoyées ou non devant un juge d'instruction. Si oui, elles doivent être inculpées formellement et là, on se dirigera vers un procès, mais on n'en est pas du tout encore là. En principe, on devrait être fixé rapidement parce que la garde à vue a d'une durée de 48 heures au Cameroun renouvelable une seule fois. Donc, en principe, la date limite pour Maurice Kamto, c'est ce soir. Et ceux arrêtés en même temps que lui, pour les autres arrêtés samedi, mais le délai est déjà dépassé. Je dis en principe parce que selon les avocats, la garde à vue n'a pas été notifiée, donc pas non plus renouvelée. Les avocats contestent d'ailleurs ce qu'ils appellent un vice de procédure.
Et on en parlera tout à l'heure dans la Libre Antenne avec les auditeurs. Merci Anne Cantonnerre d'être venue répondre à Hamid qui nous appelait de Douala. Il est 9h17 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Adriana Moïsès de la rédaction brésilienne de RFI nous rejoint. Bonjour. Bonjour Adriana.
Bonjour Juan.
On vous a demandé de venir ce matin car nous avons des questions sur cette catastrophe survenue il y a tout juste une semaine mais qui continue à bouleverser le Brésil, la catastrophe de Brumadinho dans le sud-est du pays. Ferrucci, bonjour. Ferrucci, décidément ce matin.
Oui, bonjour.
Eh bien, bienvenue sur l'antenne, vous êtes à Bujumbura, on vous écoute.
Ok, bonjour. Justement, je voulais parler du Brésil. On a vu qu'au Brésil, le barrage d'une mine dans le sud du pays s'est rompu et a provoqué au moins une couleur de boue qui a fait au moins 99 morts. Ma question est celle-ci, j'ai deux questions à poser.
Allez-y pour la première.
Ok. Comment t'expliquer il ne soit pas la première barrage qui s'est effondré.
Alors, comment expliquer que ce ne soit pas la première fois qu'un barrage de ces types s'effondre, d'autant qu'il s'agit, vous faites référence effectivement à la catastrophe d'il y a 3 ans. Adriana Moïsès, ce qui est surprenant et ce qui choque évidemment, c'est qu'il y a 3 ans, un barrage identique avait tué peut-être un peu moins de personnes que cette fois-ci, mais ce barrage appartenait et appartient toujours à la société Vale, hein, donc la société Vale qui est donc copropriétaire des deux barrages qui se sont effondrés ces 3 dernières années. C'est une tragédie humaine. Ferrucci parlait de 99 morts, on en est je crois à 110 aujourd'hui, c'est le dernier bilan.
Exactement.
Et 238 disparus. Comment expliquer que les mêmes incidents se reproduisent au Brésil?
Cela peut sembler incroyable, mais la réponse c'est que ni Vale, ni les 3 agences fédérales brésiliennes liées au ministère des Mines et de l'Énergie, chargées de la réglementation et de la surveillance de l'exploitation minière dans les pays, n'ont tiré les leçons de la catastrophe de Mariana, qui, on va vous rappeler, a fait 19 morts en 2015 et qui était jusqu'alors la pire catastrophe environnementale de l'histoire du Brésil. Au Brésil, Ferrucci, 3 agences, comme je viens de dire, sont bien censées d'être en charge de la surveillance de l'activité minière. Entre 2015 et 2018, donc après Mariana, les gouvernements avaient alloué un budget de 4,7 milliards de reais à cet effet. On découvre aujourd'hui que sur ce total, 35% du budget n'a pas été dépensé, tout simplement. Il était approuvé, mais il n'a pas été dépensé. Mmh. En ce moment même, une entité de la société civile tente de comprendre où l'argent a bien pu passer.
Oui.
Et on, bien sûr, on voit qu'il y a eu de graves défaillances des contrôles et des suivis de cette affaire.
Et d'ailleurs, quand on interroge la population sur place, certains parlent de tragédie annoncée. Il y avait déjà des signes de fuite sur ce barrage. Mais les habitants disent, voilà, il y a de la négligence, il y a de l'impunité, on ne sait pas où passe l'argent. Donc, finalement,
voilà.
Personne n'est surpris par cette tragédie.
Personne n'est surpris. En plus, dans l'état des Minas Gerais, ces dernières années ont été marquées par un manque de rigueur concernant les licences environnementales. Peu de temps avant de quitter le gouvernement, l'ancien gouverneur des Minas, Fernando Pimentel, du Parti des Travailleurs, il avait par exemple approuvé la demande de Vale d'augmenter, ça c'est très très important, des 88% sa production dans cette mine accidentée. Vous imaginez augmenter d'un coup des 88% l'exploitation de cette mine du Córrego do Feijão à Brumadinho, un processus de hausse des rendements qui est absolument inhabituel. Comment est-ce qu'on double, on triple l'activité minière? Et d'ailleurs, des géologues comparent l'état du terrain de la région exploité de manière intensive et irresponsable depuis 3 siècles, à un fromage plein de trous.
Ah oui.
Ça veut dire que le terrain est très, très instable. D'autres catastrophes, bien sûr, qu'elles peuvent encore arriver. Devant cette situation, Vale a décidé d'arrêter ses activités dans 10 mines, qui sont à peu près dans les mêmes états de Mariana et Brumadinho, mais ça va prendre encore 3 ans. Donc, ça veut dire qu'on peut attendre encore d'autres catastrophes.
Effectivement. Et c'est
si
là aussi l'inquiétude principale des habitants dans cette région du Brésil. Vous avez une dernière question, Ferrucci?
Oui, la dernière question est celle-ci. Que peuvent faire les autorités pour reconstruire la ville ravagée par cette catastrophe?
Oui, la ville de Brumadinho.
Ferrucci, ça prend du temps, ça va prendre du temps, comme c'est passé pour Mariana, qui n'est pas encore récupérée de la catastrophe.
Mariana, c'était il y a 3 ans.
Il y a 3 ans, bien sûr.
Et la population n'a toujours pas reçu les indemnisations.
Non, l'accord des indemnisations a été conclu en octobre dernier. Les gens ont reçu 20 000 reais, ça veut dire 4 000 euros, jusqu'à présent, juste pour pouvoir se loger quelque part, mais elles n'ont pas reçu, pas encore leur indemnité. La justice, elle a bloqué beaucoup d'argent de Vale,
de la société.
Elle a bloqué
plusieurs milliards.
11 milliards de reais en une semaine.
En euros, c'est un peu plus de 2 milliards.
Un peu plus de 2 milliards d'euros. Mais vu le temps que toute l'enquête prend en justice, tous les accords, parce que Vale est aussi à des filiales à l'étranger et tout, donc on peut attaquer la société à l'étranger, ça va prendre du temps.
Merci beaucoup Adriana Moises de la rédaction brésilienne d'être venue nous répondre à Ferrucci qui nous avait contacté via le compte WhatsApp de l'émission. Je vous redonne le numéro 336 89 28 53 64. Allez, on va terminer la première partie de l'émission, on va parler culture, bande dessinée, une fois n'est pas coutume. Bonjour Delvi.
Bonjour Juan, bonjour à tous et un grand bonjour à la formidable équipe d'appel sur l'actualité.
Merci de vos encouragements. Vous souhaitez revenir sur le festival d'Angoulême?
Le festival de la bande dessinée d'Angoulême a décerné le prix Couille au cul aux dessinateurs équatoriens guinéens Estobo et Balé. Pourquoi il a été récompensé par ce prix? Que revendique-t-il dans sa BD Cauchemar d'Orbi?
Oui, vous avez bien entendu, chers auditeurs. Couille au cul, c'est un prix du Festival OFF de la bande dessinée d'Angoulême qui récompense, je cite les organisateurs, les auteurs qui en ont et qui les portent. Autrement dit, les auteurs récompensés pour leur courage artistique. Bonjour Sophie Torlotin.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service culture de RFI, alors expliquez-nous pourquoi Ramon Essonnoé-Ballet a obtenu ce prix.
Alors déjà, c'est un prix qui a été lancé en 2016 par un dessinateur du magazine Fluide Glacial, Yann Lindingre. Effectivement, il a choisi un intitulé cru, involontairement vulgaire, pour marquer les esprits. Et c'est une façon de dire que c'est un prix qui félicite un artiste talentueux et courageux et qui n'hésite pas à se battre contre les censures. Les premiers prix ont été décernés à des dessinatrices tunisiennes, turques, un dessinateur iranien. Et donc cette année, l'équato-guinéen Ramon Essonnoé-Ballet, il a 40 ans cette année, il a étudié le dessin en autodidacte, il a choisi un pseudo, un Ramon y queso, c'est un jeu de mots en espagnol sur les mots jambon et fromage, et puis il a d'abord travaillé comme caricaturiste, donc des dessins de presse dans de nombreux magazines et quotidiens nationaux. Il a dû s'interrompre parce que on ne badine pas avec la censure en Guinée équatoriale. Et puis, il a déménagé il y a quelques années avec sa famille au Paraguay, puis au Salvador. Mmh. Et puis, il y a un an et demi, il est retourné en Guinée équatoriale pour renouveler son passeport. Et là, il s'est fait arrêter. Il est resté en prison, à la prison de Black Beach, le Guantanamo guinéen, Juan. Il a été incarcéré en septembre 2017, libéré après toute une campagne internationale. Et puis, depuis, il vit assigné à résidence.
Il a passé effectivement 5 mois en prison. Alors, il est connu pour ses caricatures acerbes contre le pouvoir équato-guinéen. Que raconte sa dernière bande dessinée? De quoi parle-t-il? Que revendique-t-il dans Cauchemar d'Obi?
Alors effectivement, c'est une bande dessinée, c'est la bande dessinée pour laquelle il reçoit ce prix, le prix du courage artistique. C'est une bande dessinée qui met en scène Teodoro Obiang-Nguema, le président de la Guinée équatoriale, président depuis 1979. Donc juste pour signaler, Ramon y queso n'aura donc connu ce président depuis qu'il est né. Sur la couverture, on voit un même homme, mais comme partagé en deux. D'un côté, un homme tiré à quatre épingles, en costume, cravate, propre. Et puis, sur l'autre partie, on le voit avec des vêtements usés, un short, un t-shirt déchiré, il semble perdu. Et pourtant, c'est le même homme, c'est le président, Teodoro Obiang-Nguema. Dans le cauchemar d'Obi, en fait, il se réveille, ce président, dans son pays, mais comme un citoyen lambda. Mmh. C'est-à-dire qu'un soir, tout va bien, il est riche, il est président, puis le lendemain, il se retrouve dans un quartier pauvre et fait l'expérience de ce que vivent des millions de Guinéens, la pauvreté, l'inégalité sociale, l'accès impossible aux soins. Voilà, c'est le cauchemar d'Obi, c'est le cauchemar d'un président obligé de vivre dans sa propre dictature.
Oui, et qui est un président qui se retrouve donc du jour au lendemain sans argent et qui découvre finalement comment sa population vit au quotidien. C'est donc un album très engagé.
C'est un album effectivement engagé, féroce, et drôle à la fois, effectivement, sur ce dictateur qui bafoue les droits de l'homme dans son pays. Ramon Essonnoé-Ballet a travaillé cette bande dessinée avec deux scénaristes qui, eux, ont choisi des pseudos et sont anonymes. Lui, il l'assume, même s'il a un pseudonyme, il est connu. Mmh. Donc, il savait qu'il prenait des risques en publiant cet album. Et de fait, il a été quand même incarcéré pendant plusieurs mois à la prison de Black Beach. Et là, il vit toujours assigné à résidence.
Ouais. Le cauchemar d'Obi, si ma mémoire est bonne, Sophie Torlotin, s'est publié aux éditions de l'Harmattan, donc à découvrir, à lire absolument. A-t-on répondu à vos questions, Delvie?
Merci, monsieur Juan, et merci à Sophie.
Oui, Sophie Torlotin, du service culture de RFI. Bonne journée à tous les deux. On avait également prévu ce matin des questions sur l'un des plus anciens détenus de France. Il sera libéré. Je m'adresse à Bianassi, qui nous appelait d'Abidjan. Ne vous inquiétez pas, on vous rappellera évidemment en début de semaine prochaine et vous aurez toutes vos explications. À suivre le journal, on retrouve l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et tout de suite après, dans 10 minutes, la Libre Antenne, vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.